Le groupement de l'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées a fêté son 20e anniversaire vendredi dernier à Séméac. Une centaine de personnes ont participé à cet événement, dont le point d'orgue a été la table ronde qui a réuni paysans bio, chercheurs, ouvriers agricoles et diététiciens. Le député Jean-Bernard Saint-Pastous et Geneviève Hisson, maire de Séméac, ont aussi participé à la rencontre. Dans ce reportage, notre correspondant Jean-François Courtille et Pascal Lachaud, directeur du GAB 65, nous présentent le projet de pôle économique de coopération territoriale dans les Hautes-Pyrénées.
Alors, au-delà du GAB 65, qui est l'acteur aujourd'hui qui fait la jonction et la coordination, mais le devenir, c'est comment on répond sur ce département aux besoins alimentaires des populations dans une qualité bio. Voilà. Et en relocalisant l'alimentation. Ça, c'est ce qui nous occupe avec 13 acteurs qu'on a mis autour de la table et avec qui on travaille pour certains depuis une dizaine d'années. Je pense à Village Accueillant, Secours Populaire, au Biocop, aux outils économiques qui sont nés avec le GAB 65, hein, bien sûr. La SKI Claudicée d'Engrain, Alti-Pyrénées Bio, Resto Bio, le Bio Collectif de Maraîchers. Et aussi des institutions publiques comme le CFPPA, voilà. Et d'autres acteurs, je ne vais pas tous les citer, c'est un peu fastidieux. On s'est créé en 2015, d'abord, il faut le dire. On a été candidat à l'appel à projet national, on n'a pas été retenu, mais on existe, on a formalisé notre existence au niveau du labo de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième acte qu'on a posé en 2017, c'est on s'est mis d'accord sur un cadre de valeurs et un cadre éthique et d'objectifs communs. Dans ce cadre éthique et d'objectifs, il y avait d'abord la réponse aux besoins alimentaires des populations, la souveraineté alimentaire de notre territoire, ce qui nous paraît un minimum. Le deuxième axe, c'est comment la bio, qu'on a professionnalisée, change d'échelle, donc comment elle devient majoritaire dans ce département pour répondre et qu'on aujourd'hui, qu'on arrête de faire venir les produits, y compris bio, de loin, bien qu'ils viennent du bassin de production, notamment sur les marchés, mais qu'il faut améliorer sur la distribution, ça ne va pas. Et ensuite, qu'on a besoin de transformateurs, qu'on a besoin de formation professionnelle, qu'on a besoin d'installer des jeunes et de maintenir les systèmes en place. Donc on s'est posé toutes ces questions, on s'est mis d'accord sur valeur objective, donc changement d'échelle. Dans le changement d'échelle, il y a comment on gère ce changement d'échelle. Bien sûr, par une gestion collective, donc un outil collectif qui sera une SKIC certainement, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, aux mains des coopérateurs, donc des personnes morales. Et cette SKIC, elle sera créée par les 13 structures, mais demain, elle peut aussi accueillir tous ceux qui veulent. Il y a des dizaines de transformateurs, d'autres distributeurs indépendants, y compris les institutionnels. Ils ont tous leur place dans cette structure dès l'instant où ils adhèrent à la charte et aux objectifs. Voilà, ça c'est important. Et par contre, ce qu'on a, on a, grâce à France Active, à Midi-Pyrénées Active, on a pu effectuer deux DLA. Le premier, c'est donc charte, valeur, objectif, mais aussi quel cadre de mutualisation. On a validé un cadre de mutualisation commun, notamment sur communication, commercialisation, sur gestion administrative, ressources humaines, gestion financière. Et le troisième, c'est logistique transport. Et on dépose un dossier d'études de préfiguration, de demande d'études de préfiguration à la région, au nom des 13 structures. Et on souhaite, bien sûr, être accompagné financièrement, institutionnellement, par la région, mais aussi par Tarbes Pyrénées, qui a une vraie ambition de plan alimentaire territorial, et par le Pays d'Aisne, qui a aussi une ambition d'alimentation sur un plan alimentaire territorial. Donc ça veut dire que demain, le pôle, il peut mettre en place très concrètement un cadre de mutualisation entre les 13 structures et travailler sur la mise en place de la gouvernance, travailler sur l'ingénierie financière et sur un vrai engagement stratégique pour notre département des Hautes-Pyrénées, pour qu'on arrête de nous bassiner que le département il est désertifié. Non, il a de la vitalité. Nous, on fait partie des acteurs qui relevons le défi, qu'on peut installer des dizaines de jeunes dans ce département, ne serait-ce que sur les légumes bio. On a un déficit de 500 tonnes en légumes bio sur ce département. Nous, on relève le gant qu'aujourd'hui, sur du foncier public, on doit pouvoir installer, avec le savoir-faire, la couveuse d'activité qui existe à Village Accueillant, avec les aussi les, le savoir-faire du GAB, le savoir-faire du CFPPA, de l'Annemezan, de Vic, on a tous ensemble, et ceux de la Chambre d'agriculture que je n'oublie pas et que j'associe, on doit pouvoir tous ensemble relever ce défi et demain produire 500 tonnes de légumes plutôt que du maïs qui est pas payé à 100 tonnes, à 100 euros la tonne au cours mondial, voilà, en conventionnel. Donc, faisons ce chemin ensemble, coopérons plutôt que d'être dans la concurrence. Voilà le message, et ça, c'est et l'avenir du GAB, mais c'est l'avenir de l'agriculture de ce département qui est en jeu.
Voilà, c'était Pascal Lachaud, directeur du GAB 65, le groupement de l'agriculture biologique. Dominique Paturel, chercheuse à l'INRA de Montpellier, détaille sa réflexion sur le thème de la démocratie alimentaire.
Alors la démocratie alimentaire, déjà, ça repose sur un concept qui existe et qui a été élaboré par un chercheur anglais qui s'appelle Tim Lang, qui lui part du constat que le système alimentaire aujourd'hui est complètement verrouillé par le système agro-industriel. Il part aussi du constat que finalement les États, quels qu'ils soient, n'arrivent pas à prendre la main sur ce système agro-industriel. Et donc il dit, la seule chose qui reste, c'est de démocratiser ça. Ça veut dire que chaque citoyen reprenne la main sur les conditions de son accès à l'alimentation, en se posant les questions de comment c'est produit et qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Alors, disons, si on prend la définition comme ça, on voit bien qu'un certain nombre de réseaux militants se sont complètement emparés de ce concept et ont développé un certain nombre d'activités, que ce soit les AMAP, certains groupements d'achat, les jardins partagés, etc. Tout ça, c'est des exemples de démocratie alimentaire, avec un discours aussi qui s'est développé autour de la justice alimentaire, et qui donc en pose pour le coup la question de façon plus globale, à savoir comment ça c'est accessible à tout le monde. Parce que finalement, ces réseaux militants et la façon dont ça a été réfléchi à partir de ces réseaux militants, ça concerne qu'une toute petite partie de la population. Donc en utilisant ce concept de démocratie alimentaire, pour nous, dans notre collectif de recherche, ce qu'on a plutôt fait comme pari, c'est de partir du citoyen ordinaire. Alors ordinaire au sens de tout le monde et surtout au sens de consommation ordinaire. Donc comment on fait pour faire en sorte que ça puisse se généraliser. Alors, il y a ces pistes là, donc, que je viens d'évoquer, mais il y en a une autre qui est plutôt celle sur laquelle moi je travaille, qui est la question du droit. Et donc, on a lancé depuis un an un séminaire qui s'appelle « Droit à l'alimentation durable ». Et la question autour de ce droit à l'alimentation durable, c'est de savoir quel type de droit. Est-ce qu'on est sur un modèle comme celui du droit opposable au logement, un droit universel, dans lequel il y a une possibilité de dire ce droit n'est pas respecté, donc à l'État de voir ce qu'il veut faire. Ou bien il y a une vision d'un droit plus soft, qui sont en particulier une partie des droits sociaux qui existent du côté des droits humains, où effectivement le droit à l'alimentation existe, mais ces droits-là, en grande partie, sont soumis au fait que les États acceptent de les mettre en place ou pas. Donc ça nous a permis de faire un travail de fond, notamment sur un point de vue juridique, et de nous rendre compte en particulier que le droit à l'alimentation n'existe pas en France. Et c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça nous montre, enfin, en tout cas ça ouvre la voie à une réflexion qui est plus complexe, qui serait celle d'un droit qui soit à la fois un accès universel et en même temps la prise en compte des différents niveaux, des questions de territoire et des questions de groupes sociaux. Parce qu'on peut imaginer que, par exemple, le groupe social formé par aujourd'hui les gens qui mangent bio n'est peut-être pas le même groupe social qu'un certain nombre d'habitants d'autres territoires. Voilà, c'est comment on essaie de conjuguer à la fois de l'universel et de la prise en compte de situation locale.
Et comment est-ce que cette recherche de la démocratie alimentaire peut-elle croiser ce que Pascal Lachaud, directeur de GAB 65, appelait la sécurité sociale de l'alimentation ?
Alors, ce qui est intéressant autour de cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, c'est que Pascal réfléchissait à ça dans son coin avec les gens du GAB 65. Nous, de notre côté, on est arrivé à peu près à la même conclusion. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'idée qu'on ne pourrait faire avancer la question que par la construction, effectivement, d'ailleurs on l'appelle comme ça, sécurité sociale alimentaire. Voilà. Et donc c'est assez intéressant parce que du coup ça voulait dire qu'à des endroits différents, il y a des groupes qui commencent à réfléchir à cette question-là sans qu'on se soit réellement croisés. Bon, et puis il se trouve qu'avec Pascal, on s'est croisés et on voit bien que lui l'aborde du côté de la restauration collective. Nous, on l'aborde plutôt du côté à la fois du service public, mais aussi à partir de cette histoire du droit que je viens de vous expliquer. Et on voit bien qu'en réunissant tous ces points de vue-là, on a aujourd'hui de quoi pouvoir commencer à avoir des propositions très concrètes sur la question.
Voilà, à l'instant, c'était Dominique Paturel. Elle est chercheuse à l'INRA de Montpellier. Enfin, Benoît Biteau, paysan bio et vice-président pêche de la région Nouvelle-Aquitaine, confie son expérience de terrain au service d'un autre modèle d'agriculture.
C'est à plusieurs lectures le mot résistant. Déjà, moi, je suis issu d'une famille de résistants, hein, c'est-à-dire mes grands-parents étaient dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un lien direct avec l'avènement de ce modèle agricole dominant il y a 60 ans et l'après-guerre, l'après-Seconde Guerre mondiale, dans le sens où... sur fond de plan Marshall, d'avènement de la PAC, on a reconverti les entreprises qui étaient dans l'effort de guerre sur des activités agricoles. Et finalement, les paysans qui ont continué de développer le bon sens paysan, qui ont continué de pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, étaient des paysans qui étaient en résistance par rapport à l'avènement de ce modèle extrêmement dépendant du pétrole, extrêmement dépendant de la chimie de synthèse, extrêmement dépendant des semences certifiées. Et donc voilà, c'est les multiples lectures qu'on peut trouver autour de paysans résistants. Et après, dans ma propre histoire à moi, la résistance à ce syndicat majoritaire qui, pendant tout mon parcours d'installation et tout mon parcours de paysans depuis 10 ans, n'a cessé de mettre des bâtons dans les roues, poser des pots de bananes et donc m'empêcher de pouvoir avancer sur ce modèle-là.
Alors aujourd'hui, en quoi consiste votre exploitation? Quelles sont vos différentes activités?
Alors déjà, moi, je ne parle pas d'exploitation. C'est-à-dire que, pour me démarquer, mais c'est pas que de la sémantique, nous, sur notre structure, on a cessé d'exploiter les hommes, on a cessé d'exploiter la terre, on a cessé d'exploiter les animaux. On est plutôt dans des logiques où on coopère avec la nature, on coopère avec les animaux, on coopère avec les hommes qui travaillent avec nous, les hommes et les femmes d'ailleurs. Et donc, on refuse ce verbe exploiter ou ce mot exploitation ou ce mot exploitant. Et donc, moi, je me revendique paysan et je trouve que c'est plutôt noble. Et on évolue sur une ferme et donc voilà. Et donc sur cette ferme là, on est sur des logiques de polyculture, polyélevage. Donc je dois produire 17 ou 18 espèces différentes, toutes dédiées à l'alimentation humaine, parce qu'on considère que la meilleure façon d'élever des herbivores, c'est de les nourrir avec de l'herbe. Donc on produit de l'herbe pour nourrir des herbivores et donc du coup les surfaces qu'on appelle céréalières sont plutôt des surfaces dédiées à des productions dédiées à l'alimentation humaine. Donc il y a plein de productions, hein, du blé panifiable, du seigle panifiable, de l'épeautre panifiable, des lentilles, du pois chiche, des pois verts. Enfin, voilà, je ne vais pas faire la liste, c'est 17 à 18 productions. Et le principe, c'est que ce soit en élevage d'ailleurs ou en production végétale, on est en mélange. C'est-à-dire que les vaches pâturent avec des chevaux, les chèvres avec des ânes, ce qui permet d'amplifier la productivité des prairies. Et sur les productions végétales, on est sur des logiques où on mélange les productions et donc on est sur des espèces qui sont complémentaires et qui fait que quand on les produit en mélange, ça amplifie la productivité, ce qui nous permet de rivaliser en production par hectare avec des productions qui utilisent encore des semences certifiées, des produits de synthèse comme les pesticides ou des engrais.
Vous avez été aussi un temps vice-président du parc naturel régional, directeur adjoint, pardon. Donc quel... pour vous, cette notion de respect, de valorisation de l'environnement, de pédagogie auprès des publics, c'est important aussi?
Oui, c'est ce que j'appelle le cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on s'engage dans un modèle agricole qui a l'ambition de coopérer avec la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en me revendiquant paysan plutôt qu'exploitant, on se rend compte que finalement on amorce véritablement un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans ces logiques de production-là, on est en respect des équilibres, et des équilibres territoriaux notamment, où on respecte les vocations des différents territoires, des zones humides, des, voilà, donc ça c'est très important. On est aussi dans des logiques de respect des biodiversités, j'en ai parlé avec les biodiversités sauvages, les grenouilles, les oiseaux, les plantes rares et tout ça, mais aussi les biodiversités domestiques avec des races locales et anciennes. On respecte les ressources, et quand je parle de ressources, j'aime bien parler d'eau, parce que l'eau est une ressource fondamentale dont on aura besoin. Et donc dans ces logiques de production-là, on est en respect de la ressource en eau, tant sur la quantité que la qualité, éviter de la souiller avec des pesticides et des nitrates qu'on doit enlever et qui coûtent très cher à nettoyer. On est en respect du climat, parce qu'on est dans des logiques agricoles qui n'amplifient pas le changement climatique, mais plutôt s'inscrivent dans des logiques d'atténuation du changement climatique, et puis bien sûr de la santé, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus de substances de synthèse qui viennent plomber la santé des gens qui consomment les produits qu'on produit. Donc c'est ça, cette logique vertueuse. Et donc effectivement, cette expérience de conservateur du patrimoine dans la fonction publique m'a aidé à bâtir ce projet agricole sur une structure qui était d'ailleurs allée très loin dans le développement d'un modèle très intensif, m'a permis de faire un virage et justement d'avancer sur ces logiques plus vertueuses.
Voilà, à l'instant, c'était Benoît Biteau, paysan bio et vice-président pêche de la région Nouvelle-Aquitaine. Et merci à notre correspondant sur Tarbes, Jean-François Courty, qui nous a parlé donc du 20e anniversaire du groupement de l'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées.